sirènes gueulent et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà, tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai allé les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission radio de l'Envolée en direct sur Radio Fréquence Paris Pluriel en région parisienne 106.3 FM et rediffusée sur une quinzaine d'autres radios associatives en France au cours de la semaine suivante. On remercie toutes ces radios au passage comme d'habitude. L'Envolée, c'est une émission de radio contre toutes les prisons qui donne la parole aux premiers et premières concernés, les prisonniers et prisonnières et leurs proches. Et comme l'Envolée n'existe que par vos contributions, vous pouvez écrire à l'Envolée par la poste. Je vous donne l'adresse, l'envolée-fpp. L'adresse, c'est 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez aussi nous contacter par email à contact@l'envolée.net. L'envolée tout attaché sans accent.net. Vous pouvez nous contacter par téléphone aussi, donc laisser un message sur le répondeur ou des textos, voire tenter d'utiliser Signal au 07 53 10 31 95. 07 53 10 31 95. Et sinon, vous pouvez suivre notre activité et nos publications sur le site internet l'envolée.net. Donc toujours l'envolée tout attaché sans accent. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, l'envolée journal, et éventuellement tenter sur X et sur Facebook. Voilà, donc ce soir c'est une émission hors les murs. Cette émission est diffusée pour la première fois le vendredi 5 décembre 2025. Donc c'est une émission hors les murs. Vous aurez remarqué, chers et fidèles auditeurs et auditrices, que environ la moitié des émissions cette année n'est pas en direct, mais réalisée hors les murs. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rediffuser une émission qui a été réalisée par la Sellette dans son émission qui s'appelle Tapage sur la radio Canal Sud à Toulouse. La Sellette, c'est un blog de chronique de la violence judiciaire qui raconte et analyse comment fonctionne la justice avec des cas précis. Et là, l'émission qu'on a envie de vous rediffuser ce soir s'appelle « L'association de malfaiteurs terroristes, un procès d'intention ». Donc cette émission revient sur l'affaire du 8-12, l'affaire dite du 8-12 dont on vous a parlé régulièrement à cette antenne. Récemment, on vous en a parlé avec Libre Flow dans l'émission du 31 octobre. Donc l'affaire dite du 8-12, c'est l'arrestation, puis la détention préventive et condamnation d'un groupe de personnes pour, entre guillemets, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ceci malgré l'absence de passage à l'acte et l'absence de projets concrets caractérisés, même après 3 ans d'enquête et 3 semaines de procès. La justice antiterroriste, en gros, fait qu'elle peut criminaliser des intentions. Alors, comment prouver des intentions ? Comment est-ce qu'on peut se défendre quand on nous prête des intentions? Comment faire face à cette mécanique infernale? C'est B, un des condamnés de l'affaire du 8 décembre, qui en parle, qui revient sur son expérience dans cette émission. Et nous, ce qui nous semble, pourquoi on a envie de rediffuser, de vous faire écouter cette émission, c'est parce qu'elle propose un récit en détail sur ce que c'est que la justice antiterroriste, comment elle fonctionne et quels sont ses usages réels et concrets, des mécanismes vraiment infernaux. Mais même si la justice antiterroriste est présentée comme une justice exceptionnelle, comme à enjeu exceptionnel, justice exceptionnelle, en fait, elle est aussi, il me semble, exemplaire de ce qu'est le droit, de ce qu'est la justice. Même si c'est une version poussée à l'extrême, on y retrouve en germe beaucoup de choses qui se passent dans la justice ordinaire en général. Et la justice antiterroriste, tant qu'elle s'applique, ses pratiques se diffusent dans tout le champ pénal. Voilà. Donc, dans cette histoire particulièrement terrible qu'a vécu B et qu'il va raconter, on peut voir aussi des choses qui sont arrivées à toutes les personnes soupçonnées de terrorisme ou d'avoir des intentions terroristes, uniquement des intentions, mais aussi de nombreuses personnes juste soupçonnées d'avoir des intentions criminelles, de faire partie d'une association de malfaiteurs. C'est appliqué bien au-delà du terrorisme dans de nombreux cas dit criminel, et c'est une manière de criminaliser quand il n'y a pas d'effet matériel à criminaliser, à pénaliser, dans tout un tas d'affaires de vol, de trafic de stupéfiants, criminaliser simplement des contacts, des connaissances, des soi-disant regroupements, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est que B nous raconte comment la garde à vue et les stratégies policières sont des stratégies mécaniques infernales pour faire cracher le morceau, faire dire des choses. Et ça, pareil, évidemment, ça a été poussé à l'extrême dans leur cas, mais tous les récits de garde à vue disent quand même, en général, que la garde à vue, ça sert à vous broyer pour vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire, ce que vous n'avez pas forcément envie de dire et ce qui n'est pas vraiment dans votre intérêt ou celui des autres. Voilà, donc tout ça pour dire que pour nous, on ne sait pas si la justice antiterroriste est si exceptionnelle que ça. En tout cas, elle est exemplaire. Donc n'hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos expériences aussi de la justice. Et en attendant, je vous laisse à l'écoute de cette émission Tapage réalisée par l'équipe de la Sellette qui s'intitule « L'association de malfaiteurs terroristes, un procès d'intention ».
L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Quel antécédent judiciaire, vous avez déjà été
condamné.
C'est encore, y compris, le fonctionnement de la
République. Les
policiers là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous êtes bien sur Tapage, une émission sur les violences judiciaires. C'est une émission qui passe sur Canal Sud 92.2 tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. C'est la deuxième émission qu'on fait sur la justice antiterroriste. Le mois dernier, on a reçu Vanessa Codaccioni qui nous a présenté son dernier livre « Comment les États répriment ». Et on avait justement parlé d'une des caractéristiques de cette justice-là, la justice antiterro, qui est d'être une justice qu'on pourrait appeler préventive en quelque sorte. C'est-à-dire une justice qui ne juge plus seulement des faits ou des actes commis, mais qui peut aussi condamner des intentions. Et ça pose la question de la preuve. Comment est-ce que l'accusation prétend prouver une intention? Et surtout, comment est-ce qu'on peut se défendre d'une intention qu'on nous prête? Pour parler de ça, ce mois-ci, on va recevoir B, un des co-accusés de l'affaire dite du 8 décembre 2020. On va commencer d'abord par un rappel rapide de cette affaire. On va donner quelques repères, mais bien sûr, on reviendra en détail sur tout ça avec toi, B.
Le matin du 8 décembre 2020, 9 personnes sont arrêtées par la DGSI, les renseignements intérieurs. 2 sont relâchés et les 7 autres sont accusés d'association de malfaiteurs terroristes. 5 sont placés en détention provisoire. Ces personnes sont jugées à l'automne 2023. On leur reproche de projeter des actions violentes contre les forces de l'ordre, même si l'enquête n'a pas permis d'identifier un projet d'attentat précis. Dans ce procès, Libre Flow, c'est le principal accusé. Toute l'affaire est construite autour de lui. Les autres accusés le connaissent tous, à des degrés divers, mais ils ne se connaissent pas forcément entre eux. En 2018, Libre Flow est parti au Rojava, au Kurdistan syrien pour combattre l'organisation terroriste État islamique. Depuis son retour, il est surveillé par la DGSI. En avril 2020, pendant le confinement, Libreflo et une partie des co-accusés passent plusieurs semaines ensemble sur un terrain. Durant ces quelques semaines, parmi diverses activités, Airsoft, qui est un peu comparable au paintball, c'est un loisir, et fabrique des pétards.
C'est à ce moment-là que la DGSI va remettre un rapport au parquet national antiterroriste expliquant que Libreflo est en train de constituer un groupe d'ultra-gauche en vue de commettre des actions violentes. Pendant les mois qui suivent, les camions dans lesquels il et elle vivent sont sonorisés et tout le groupe est mis sur écoute jusqu'à leur arrestation le 8 décembre 2020. À l'issue du procès, il et elle sont jugés coupables d'association de malfaiteurs terroristes et lourdement condamnés. Les peines vont de 2 années de prison avec sursis pour la plus légère à 5 années de prison, dont 2,5 avec sursis probatoire pour la plus lourde. Donc à ce stade, on a une question, Jonathan. C'est quoi l'association de malfaiteurs terroristes ?
Bah, c'est compliqué et simple à la fois. C'est simple parce que finalement, on a une définition qui nous est donnée par le code pénal. C'est compliqué parce qu'on n'y comprend rien. Déjà, c'est l'adjonction de 2 trucs peu clairs. 1. Qu'est-ce que le terrorisme ? 2. Qu'est-ce qu'une association de malfaiteurs ? Association de malfaiteurs, on le sait, c'est un délit qui existe depuis le 19e siècle, qui a notamment été renforcé et élaboré pour réprimer le mouvement anarchiste. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait arrêter les gens avant qu'ils ne passent à l'acte, avant même la tentative. Et on a une définition, je vous donne celle du code pénal du coup, le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'une infraction. En l'espèce, d'une infraction terroriste. Et c'est quoi le terrorisme ? Là, on est encore dans le flou. C'est une infraction lorsqu'elle est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Alors, c'est toujours très très embêtant en droit répressif quand on a des infractions qui sont aussi peu précises. Parce que le droit répressif, par définition, c'est un droit qui est très attentatoire aux libertés individuelles et que pour se prémunir de l'arbitraire du juge, on doit pouvoir précisément comprendre et dire qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et là, vous voyez que déjà, un groupement formé ou une entente établie, bon, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Au tout début, d'ailleurs, la jurisprudence disait que cette entente établie ou ce groupement, il devait être composé de plus de 3 personnes. Il devait y avoir une hiérarchie entre ses membres. Et petit à petit, on a un peu abandonné tout ça. Peu importe qu'il y ait une hiérarchie, un couple a même été considéré comme une association de malfaiteurs, donc 2 personnes suffisent. Bientôt, on pourrait être une association de malfaiteurs à soi tout seul si ça continue. Et peu importe que le groupe ou cette entente, elle existe depuis 1 an, 2 ans ou quelques jours. Parce qu'une simple réunion, une simple rencontre va pouvoir être considérée comme une entente. Peu importe aussi que les gens membres de cette association se connaissent ou pas. Alors ça c'est quand même un peu délirant, c'est-à-dire que vous pouvez être condamné pour une association avec des gens que vous connaissez pas. Et, mais on va dire que parce que vous avez quelqu'un en commun, quelque part, vous faites partie de cette grande association. Bon, on voit déjà c'est fumeux et ça va être difficile à prouver. Alors cette association, nous dit le texte, elle est établie en vue de la préparation. En vue de la préparation, comment on va prouver ça ? On va réprimer un projet. Cette préparation ou cette entente, elle est caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. Ça aussi, c'est peu clair. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un ou plusieurs faits matériels. Pas forcément une infraction. C'est-à-dire que même quelque chose de légal, on va pouvoir considérer que c'est un fait matériel. Et en fait, on va se servir, les juges en tout cas vont se servir de ça pour prouver l'entente. On va se servir de quelques faits matériels, une rencontre, etc., en disant, mais vous voyez, là, il y a une entente. Et cette entente, elle est en vue de participer à une infraction terroriste, laquelle est en vue de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Bon, je referme cette parenthèse-là, mais en fait, on voit bien, rien que quand on décortique ce texte, que le risque d'arbitraire, il est majeur parce que les juges en font ce qu'ils veulent. Et normalement, on a en France une cour de cassation, c'est le dernier degré de juridiction, qui est là pour rappeler un peu les règles et le fait qu'il faut que les choses, les condamnations soient précises, qu'elles soient motivées. Et bien là, elle ne le fait pas. Elle considère qu'il n'y a pas de problème à ce que l'entente soit déduite de faits matériels, qu'ils soient légaux ou pas légaux. Il n'y a pas de problème à ce que, par exemple, un membre d'une association de malfaiteurs n'ait même pas une idée précise de ce qu'on reproche à l'association de malfaiteurs de faire. C'est-à-dire que quel acte terroriste ? Peu importe, nous dit la chambre criminelle, que les personnes sachent de quel acte terroriste il s'agit. Même une idée vague sur la possibilité de peut-être un jour commettre une infraction peut suffire pour condamner l'association de malfaiteurs. Alors c'est vrai que quand on voit tout ça et quand on entend tout ça, il y a quand même une question, c'est comment on se défend d'une accusation pareille.
Et c'est là-dessus qu'on va, c'est notamment ça dont on va parler avec toi, B. Et pour faire ça, on va tout simplement revenir chronologiquement sur tout ce qui s'est passé, en commençant par l'interpellation, ensuite la garde à vue, l'instruction, puis le procès. Et si tu veux bien, est-ce que tu peux commencer par nous raconter la manière dont s'est passée l'interpellation?
Oui, bon, déjà, bonjour à tous, merci de l'invitation. L'interpellation s'est passée le 8 décembre à 6h du matin, donc l'heure légale pour les interventions de ce genre. Donc à cette heure-là, on dort, on est tranquillement dans son lit. Et moi, à ce moment-là, j'ai entendu une personne qui dormait dans une chambre voisine de la mienne se mettre à hurler. Et du coup, je me suis réveillé d'un bond et j'ai entendu que ça gueulait « police, police ». Et moi, j'ai décidé de sortir de la pièce pour pas qu'il vienne défoncer ma chambre, quoi. Et donc là, on se retrouve en face d'une cinquantaine de gens surarmés. L'interpellation s'est faite par les GAO, c'est le groupe d'appui opérationnel. Donc c'est un peu un GIGN, quoi. Et du coup...
Une cinquantaine de personnes.
Ouais. Alors, ce que j'ai vu de visu dans le lieu de la maison où j'étais, c'était une cinquantaine de personnes. Et en fait, quand on est sorti de la maison, ils étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux que ça, quoi. Il y avait, c'était, je pense, 150-200 personnes faciles. Pour cette intervention, quoi. C'était énorme. Il y avait des drones, il y avait des camions, il y avait des chiens, enfin, il y avait...
Et on est bien d'accord qu'à ce moment-là, tu es la seule personne qui vient d'interpeller.
Non, dans cette maison, on était deux à être interpellés.
Vous étiez deux à être interpellés, ouais. D'accord.
Et du coup, c'est interpellation, plaqué contre mur, fusil d'assaut sur la tempe. Tous, ils sont en stress parce qu'ils pensent aller cueillir un dangereux bandit armé jusqu'aux dents, prêt à se défendre. Et en fait, du coup, ils sont à fond, quoi, donc ils se mettent tous à hurler... Ils sont tous très tendus. Et moi, je comprends très vite qu'ils sont venus pour moi parce que quand ils nous rassemblent tous dans la même pièce, lorsque je rentre dans la pièce, l'une des seules personnes qui n'est pas cagoulée lors de cette intervention m'appelle par mon nom et mon prénom. Du coup, je comprends qu'ils sont là pour moi à ce moment-là, quoi.
Tu comprends qu'ils sont là pour toi, mais à ce moment-là, est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'ils te reprochent, de ce qui se passe ?
Non, absolument aucune. Là, à ce moment-là, je comprends pas du tout. Je sais qu'ils sont là pour moi, mais je comprends pas du tout pourquoi je me fais arrêter, quoi. Et du coup, l'intervention dure très longtemps parce que moi, ils me mettent à l'écart. Ils me signifient ma mise en garde à vue. Et puis après, c'est tout un moment de perquisition où ils m'emmènent d'un lieu à un autre. On fouille mon camion qui est dehors dans le froid périgourdin. Je suis en caleçon parce que je suis sorti de mon lit en caleçon. Et du coup, je passe une heure dans le froid périgourdin, me noter en caleçon pendant qu'ils sont en train de complètement démonter mon camion. Après ça, j'ai beaucoup d'attentes parce que vu qu'on est deux à être interpellés, le copain qui sont venus chercher aussi n'était pas sur le lieu à ce moment-là. Et du coup, ils me disent qu'on partira pas tant que lui sera pas là avec nous. Et du coup, moi, on m'a installé une camisole de force. Et puis là, une longue attente de plusieurs heures s'installe à ce moment-là, quoi.
Qu'est-ce qui se passe là? Il te parle
pendant la perquisition, il parle un petit peu. Il pose des questions, il demande. Enfin, il demande où est-ce qu'il y a des choses. À un moment donné, ils me disent qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Je dis ben, j'en sais rien. J'imagine que c'est un placard à balai. Ils disent bon ben on va l'enfoncer. Je suis là ben, peut-être que si vous demandez gentiment la clé, on va vous la donner. Forcément, ils défoncent la porte. Puis derrière, méga surprise, c'était déballé. Ouais. C'était incroyable quoi. Du coup, ils ont défoncé une porte pour déballer. Et puis après, je suis dans une voiture. J'ai attendu longtemps dans une voiture, entouré de gorilles surarmés, cagoulés. Et là, non, il parle pas, quoi. Juste, je suis dans la tente, j'ai froid, j'ai la camisole, et puis j'attends.
T'as demandé à un avocat dès la notification de tes droits ?
Non. Ils m'ont proposé lors de ma mise en garde à vue. Et en fait, à ce moment-là, moi, je suis persuadé, enfin, je sais pas pourquoi ils m'arrêtent, mais je suis persuadé que dans les 4 heures, je serai sorti du commissariat.
C'est un malentendu, quoi.
Que c'est un malentendu, ouais. Voilà, quoi. Et puis, je suis instantanément rentré dans un état de choc, de sidération qui fait que mon cerveau il est complètement ralenti, c'est de la choucroute. Et donc, non, je ne prends pas d'avocat à ce moment-là.
Un fusil, comme tu dis, un fusil sur la tempe, l'aube, 150 personnes surarmées, la camisole, les cagoules.
Ouais.
C'est un peu fou. Donc, j'imagine qu'à un moment, il t'emmène à Levallois-Perret. À ce moment-là, tu comment ça se passe le trajet? Comment tu es emmené? Tu es emmené en train?
C'est la DGSI, elle va l'opérer, ouais. Et du coup, ouais, on est emmené en train. Alors, on fait une étape par un hôpital pour une étude, voir si on est apte à aller se faire torturer dans les locaux de la DGSI. Et puis, nous emmène en voiture. On est allé en voiture jusqu'à Bordeaux. Et du coup, on a traversé toute la gare. On a pris un train de passage est classique, quoi. Donc au début, on était dans un wagon rempli d'usagers de la SNCF. Moi, j'avais une bonne beubare à cette époque. C'était en plein milieu du Covid. Du coup, ils nous avaient foutu un masque anti-Covid. Moi, toutes les 5 secondes, j'avais le masque qui me remontait dans les yeux. Enfin, ils nous tiennent penchés en avant avec le blouson sur la tête pour pas que les gens puissent voir nos visages. Camisolés de force. Enfin, c'était un passage assez étrange, ces traversées de gare. Au premier arrêt du train, ils ont vu avec des agents SNCF et du coup, ils nous ont trouvé un wagon libre de tout usager. Du coup, on était vraiment que nous deux avec ceux qui nous ont arrêtés, quoi. On est arrivé sur Paris de nuit. Et là, c'est à ce moment-là où on a été séparés avec le collègue. Ils nous ont fait monter tous les deux dans une voiture différente. Et là, on a fait une traversée de Paris à toute berzingue, gyrophare allumé. Et au bout de, je pense, 10-15 minutes de traversée de Paris, on m'a mis un sac sur la tête, un sac obstruant. C'est un sac qui ne filtre que la lumière, du coup, vraiment, on voit juste la lumière, on voit rien d'autre. Et donc là, on est brinque-ballé, on sait pas du tout où on va. Je suis encore dans un parking souterrain. On m'emmène dans des couloirs et puis on m'enlève le sac devant une cellule, quoi. Et du coup, voilà, c'est mon arrivée en garde à vue.
Et là, tu te dis, j'imagine que le malentendu va peut-être pas s'éclaircir tout de suite.
Là, à ce moment-là, moi, je me dis plus grand-chose. Ouais. À partir du moment où je suis dans le train, mon cerveau, il s'est éteint. Et vraiment, j'ai le cerveau complètement anesthésié. J'entends mon pote qui parle avec les agents, enfin les gars qui nous ont arrêtés. Et moi, je sais que là, je suis complètement en état de choc, de sidération, et je ne peux rien dire. Là, je comprends plus rien. Et d'ailleurs, moi, aujourd'hui, j'ai fait un gros travail. Mon cerveau a vraiment oublié ma garde à vue pendant un moment. Et j'ai fait un gros travail pour essayer de me rappeler ce qui s'était passé là-bas. Vraiment, j'étais dans un gros, gros état de sidération.
Il t'interroge combien de temps après ?
Alors, du coup, ça, c'était la première étape. On nous fout en cellule, et moi je pense que j'ai attendu quelque chose comme une heure et demie. Et du coup, premier interrogatoire, c'est au bout d'une heure, une heure et demie en cellule. Premier interrogatoire, il est assez particulier parce que on s'est fait arrêter à 6 heures du matin. De la journée, on n'a rien bu ni mangé. Et le premier interrogatoire doit se passer, j'imagine, entre 23h et minuit. Ouais. Donc ça fait plus de 24 heures qu'on n'a rien bu ni mangé. Et on se retrouve en face d'un gars qui nous pose des questions, quoi.
Est-ce que, du coup, tu as souvenir des questions qu'on t'a posées dans ce premier interrogatoire ?
On sait que le premier interrogatoire, en fait, c'est vraiment un interrogatoire où on cherche vraiment à décortiquer... ils cherchent à décortiquer qui ils ont en face d'eux. Donc vraiment, c'est des questions très portées personnelles, politiques. Et,
sur tes opinions ?
Sur les opinions, qu'est-ce qu'on pense des Gilets jaunes ? Qu'est-ce qu'on pense de Macron ? Qu'est-ce qu'on pense de...
À ce stade, avant tout ça, est-ce que tu sais ce qu'on te reproche ? À quel moment on t'a dit « voilà pourquoi vous êtes en garde à vue » ?
Alors, on m'a signifié que j'étais en garde à vue pour association de malfaiteurs terroristes. Par contre, je fais aucun lien à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et même l'association de malfaiteurs terroristes, je ne la comprends pas du tout à ce moment-là. Quoi.
Ouais, ouais. Des années plus tard, on ne sait pas toujours vraiment ce que c'est. Mais,
Complètement, quoi. Même eux, ils ne le savent pas.
Et tu dis que tu as eu accès aux questions dans le dossier. Est-ce que ça veut dire que là, lié au choc subi, sinon tu ne te rappellerais pas de ces questions ?
J'aurais des bribes, mais vraiment, non. Vraiment, j'ai redécouvert toutes les questions après coup. J'ai très, très, très peu de souvenirs des questions qu'on m'a posées à ce moment-là, quoi.
T'es interrogé par plusieurs personnes ?
Non, une seule personne et c'est toujours la même personne.
Toujours la même.
Ouais, j'ai appris pendant les interrogatoires que c'était cette personne qui m'avait écouté pendant 6 mois. Ah, putain. Donc c'est vraiment, à chaque fois que je décrochais mon téléphone, c'était cette personne qui était derrière l'écouteur et qui entendait tout ce que je disais depuis plus de 6 mois. Donc c'est quelqu'un qui me connaissait par cœur en fait.
Toute ta vie sur les...
Toute ma vie, il connaissait mes délires, il connaissait mes emmerdes, il connaissait tout.
Et il y a du off ?
Tout le temps. Il y a tout le temps du off. Il y a du off avant les interrogatoires, pendant les interrogatoires, après les interrogatoires. Il y a du off pendant qu'on est en cellule. Ils viennent en pleine nuit nous réveiller pour nous balancer des dingueries. Enfin, il y a vraiment tout le temps des coups de pression.
Ouais, juste pour les gens qui nous écoutent, le off, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est des questions qui sont posées par la police et qui n'apparaissent pas dans la procédure, quoi. Très classiquement en garde à vue, et d'autant plus sur des gardes à vue terreaux, le but de la garde à vue, c'est de faire parler les gens. Donc il y a ce qu'on écrit et il y a ce qu'on dit. Et j'imagine qu'on te dit qu'on te donne des conseils.
Ah ben littéralement ils me disent qui est visé dans cette affaire. Et vraiment, on sent de suite qu'il y a une personne qui est vraiment visée. Nous, on est des dommages collatéraux. Il faut qu'on se désolidarise de cette personne. On nous dit que c'est un tueur de keuf, qu'il va prendre 30 piges et que si on se désolidarise pas, on va le suivre dans les 30 piges. On nous dit qu'il a été arrêté main sur la gâchette, doigt sur le détonateur. Enfin, vraiment, ça n'arrête jamais, quoi.
Et toi, j'imagine que dans ce contexte-là, en fait, on a tendance à croire ce qui nous est dit parce qu'on n'a pas le... Je pense qu'avec la fatigue, la terreur, le choc, toutes ces choses-là, c'est peut-être... plus difficile de faire face aux mensonges, quoi.
Le scénario qui nous impose, il s'ancre en nous. Et moi, j'ai même mis, après ma sortie de garde à vue, plusieurs mois à retrouver mes pensées et à comprendre à quel point j'étais victime de manipulation à ce moment-là. Et oui, complètement, j'étais... ils ont ancré leur scénario dans ma tête à 100%, quoi.
On peut peut-être juste rappeler que la garde à vue en matière de terrorisme, ça dure quand même 4 jours. Donc c'est vraiment, là déjà, ça fait 24 heures que t'as pas mangé quand t'arrives. Et voilà, ça fait 4 jours après tu restes dans cette situation.
Et en plus, cette garde à vue-là, c'est dans les locaux de la DGSI, donc c'est dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur. C'est des cellules où il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. C'est que de la lumière artificielle H24. La lumière se tamise... Lorsque j'imagine être la nuit, mais on n'en est même pas sûr que la lumière s'est mise pendant la nuit. Du coup, on a une réelle désorientation sensorielle à ce moment-là. On ne sait pas quelle heure il est, quel jour on est. Je ne sais pas du tout. Enfin, quand je suis sorti, je ne savais pas du tout combien de temps j'avais passé là-bas dedans. Et donc, c'est des conditions de détention très, très particulières.
Parce que la justice antiterroriste, ce n'est pas juste une justice préventive, comme on le disait. C'est aussi une justice d'exception à pas mal d'égards. Donc, avec une garde à vue plus longue que pour la justice pénale habituelle. Et pour rebondir à ce que tu disais sur la garde à vue, en fait, c'est d'autant plus... Enfin, les conditions que tu décris et ce qu'elles génèrent, c'est d'autant plus terrible que tout ce que tu as dit en garde à vue va être abondamment utilisé au procès. On y reviendra tout à l'heure quand on va parler du procès. Mais toi, tu dis les choses dans un état second, dans un état de choc et de sidération. Et après, tout ce qui est dit et va être utilisé. Et ça va être très difficile derrière de dire, bah non, c'est pas, ou c'est pas ça que j'ai dit, ou c'est pas ça que je voulais dire, ou ça n'est pas quelque chose que je pense.
Puis par ailleurs, j'imagine que n'apparaît pas en procédure le fait que les flics t'ont dit que Libreflow avait été arrêté, le doigt sur la gâchette, ce qui a eu un impact forcément sur les déclarations que tu as pu faire.
Bien sûr que non, tout ça, c'est pas retranscrit. C'est pour ça qu'on appelle ça du off. Ouais, complètement. Et oui, oui, tout. Enfin, vraiment, ce qu'ils ont réussi à me faire dire pendant ces gardes à vue, c'est vraiment... pour eux, l'une des pièces essentielles pour nous condamner. Enfin, sans ça, enfin, ils avaient rien. Et du coup, le peu qu'ils ont, c'est ce que j'ai dit, moi, à la DGSI.
Tu es interrogé à combien de reprises ? Donc, la première fois, c'est, tu disais, sur tes opinions politiques différentes. Après, il y a plusieurs autres interrogatoires.
Oui, de souvenir, je crois que j'ai fait 4 interrogatoires avec l'enquêteur, donc questions-réponses. Ensuite, il y a eu un passage où il y a eu un décryptage de mon téléphone. Et du coup, c'était un semi-interrogatoire et fouille de mon téléphone en ma présence.
D'accord, ils le font devant toi, ils te montrent des messages et ils te posent des questions sur,
c'est ça, ouais.
Sur ta correspondance.
Ouais, ouais, ils me demandent mes mots de passe, ils me demandent, ils me demandent de tout leur donner, quoi, en fait, ce qu'il y a dans mon téléphone, quoi.
Ouais. À la fin de cette garde à vue... qu'est-ce qui se passe du coup à la fin de ces 80
avant de finir les gardes à vue, il y a des trucs qui sont passés aussi pendant le garde à vue que je pense qu'ils sont bons à donner aussi comme élément. Au début d'un interrogatoire, j'ai fait un énorme malaise, donc j'ai fait une grosse crise de tétanie. Ils ont dû faire venir les pompiers. Et ce que j'ai découvert dans le dossier plus tard, ce que je me rappelais pas, c'est qu'ils m'ont donné un anxiolytique à ce moment-là. Et donc ils m'ont filé un anxiolytique et dans la foulée, j'ai été interrogé. Donc j'ai été interrogé drogué, en fait, littéralement. Et c'était l'interrogatoire, là où on est vraiment rentré dans le dur du sujet, c'était vraiment l'interrogatoire principal où ils voulaient vraiment tout ce qu'ils voulaient. Enfin, ils voulaient que je dise tout ce qu'ils voulaient, quoi. Du coup, après ces journées de garde à vue, on a été transférés au tribunal de Paris. Donc on a fait le maximum d'heures de garde à vue. Et après ça, on est arrivé, je crois, sur les coups de 11h midi en cellule au tribunal de Paris, au tribunal de grande instance. Là aussi, on a un traitement particulier. On est dans les couloirs où il y a toutes les cellules qui s'alignent. Et toutes les cellules sont ouvertes. On peut voir à l'intérieur, ceux qui sont dans les cellules peuvent voir dehors. Et nous, on nous fout dans une cellule et là, on tire un rideau. Donc vraiment, ils obstruent notre cellule. On ne peut pas voir dehors, on peut pas nous voir de l'extérieur. Et là, c'est un passage assez compliqué. Je pense que j'ai dû y rester dans cette cellule 8 ou 9 heures, peut-être une dizaine d'heures, je ne sais pas exactement. Et là, j'ai mon cerveau, il est devenu fou, quoi. Vraiment, j'ai un peu pété un câble là-dedans. J'ai cru qu'on m'avait oublié. Vraiment, c'était étonnamment l'un des moments les plus durs à vivre.
Tu penses que tu vas sortir ?
Ah, là, je pense pas. Là, je pense qu'ils m'ont oublié dans cette cellule et que je vais y rester. Enfin, je suis à vie là-dedans, quoi. Jusqu'au moment où, du coup, alors, moi, toutes les gardes à vue, je les ai faites sans avocat. Donc, ça a été vraiment une facilité pour eux de me manipuler, de mettre des coups de pression et de me faire parler. Et quand je suis dans cette cellule au tribunal, il y a une flic qui vient me voir, qui ouvre le rideau de la cellule et qui me dit « il faut que vous preniez un avocat ». Et du coup, elle me dit « c'est soit un tel que des proches à vous ont désigné, soit un commis d'office ». Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai accepté un avocat et j'ai rencontré pour la première fois mon avocat à ce moment-là, juste avant de passer devant le juge d'instruction.
Je reviens un tout petit peu en arrière parce que tu dis « on ». Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais ce que sont devenus la personne, par exemple, avec laquelle tu as été arrêté, qu'ils attendaient aussi ? Est-ce que tu sais combien il y a de personnes ?
Je ne sais pas combien il y a de personnes. La personne avec qui on s'est fait arrêter, je l'ai recroisé vite fait de vue dans les couloirs du tribunal. Pareil, dans les couloirs du tribunal, j'ai croisé une ou deux personnes. Et je sais que dans les locaux de la DGSI, on est vraiment des cellules alignées. Il y a toutes nos paires de chaussures alignées devant les cellules. Et donc, je reconnais des paires de chaussures. Il y en a d'autres que je crois reconnaître. En fait, j'ai appris par la suite que je m'étais trompé, c'était pas cette personne-là. Et du coup, je sais quelques personnes qui sont là. Quand on a été transféré au tribunal, pareil, ils nous ont remis le sac sur la tête pour obstruer la vue. Et on a attendu dans une petite pièce avant de monter dans le camion. Et là, je sais que dans cette pièce, j'étais juste à côté d'un ami. Voilà, donc je sais pas du tout exactement qui y a, combien on est, mais je sais qu'on est plusieurs, quoi.
Il y a des gouvernants qui voient du terrorisme partout. Il y a des militants qui voient de l'administration partout. Mais quand on s'arrête et qu'on y regarde de plus près, le schéma est en moyen, la transposition assurée. L'appui des gouvernants est de s'assurer le soutien de la population qui va à un pacte de guerre sans fin. C'est le principe de l'union sacrée en temps de guerre. Celles qui comptaient sont accusées de soutien à l'adversaire. Quand la vagabonde est triste, elle va se potentiel.
Ils ont tendu du coup alors qu'Al-Qaïda a toutes les chaînes.
Beaucoup l'ont déjà mis au top, c'est des massacres de masse. Bon, à moi, c'est pas tout l'État, les terroristes se rendent place. Ils se réunissent et se rapportent. Allons par caracolis en bras. La bataille négative remportée par un tour de passe-passe. La solution ultière, c'est de renvoyer tout ça. Du dehors à l'intérieur, vérifier ces masses médias. La guerre, c'est l'armée, la valeur liberté. L'ignorance, c'est le savoir. Il faut soutenir le pouvoir.
Tellement leur rhétorique menti sous d'imagination. C'est une déclaration publique par la dissociation.
Transposer ces pierres dans une politique de gestion. Tout y'a ta guerre, on viole à l'administration de la police.
Et nous sommes pour le monde de vous, il y a des jeunes chinois.
On a aperçu un jour un bras sur le bras d'un casseur. La théorie est belle, mais tout le manipulateur. Critique facile pour empêcher le soutien envers une foule radicale.
On va admettre la stérilité de la contestation des cas. Les organes organiques pourront empêcher toute confrontation.
La journée où ils s'enfuient à manipulation. Si certains se contentent, les autres appellent à la délation.
Et elles seront plus leur monde aussi de manifestation.
Alors dites-moi, si c'est le jeu du pouvoir, qui reprend le discours ambiant, qui joue le rôle du bâtard, qui appelle à balancer, qui tient la main au tourné, qui vient vous en assurer que tout va bien se passer. Qui périlise dans les maris, qui normalise dans ses organes. Dans un cas, dans un pancard, avec un qui dépit des noirs.
Y'a des militants limités à l'intermittence de la contestation.
Sur la réfutation et à la manipulation.
L'État champion de massacre de masse toute catégorie.
Sur le terrorisme, la combat de rébellion.
Y'a des combats de l'homme terroriste. Un couple de pas de police est manipulé par les extraterrestres. On est le plat-plat terroriste. Infiltré par la police est manipulé par les extraterrestres.
Plat-plat terroriste, infiltré par la police. Elle est manipulée par les extraterrestres. Taliban lentement, partisans lentement. Elle est manipulée par les extraterrestres. Vous avez dit fasciste sur la terre de l'Antichrist. Elle est manipulée par les extraterrestres. Racaille communiste, anti-blanc, raciste. Elle est manipulée par les extraterrestres. Place de terrorisme, infiltrée par la police. Elle est manipulée par les extraterrestres. Place de terrorisme.
Et du coup, ton avocat, est-ce que tu as le temps de t'entretenir avec lui avant d'arriver devant le procureur ou...
Ça a été hyper brusque parce que j'étais dans une toute petite salle qui devait faire 2 mètres carrés avec une table et 2 chaises ridicules, quoi. Et ce gars débarque et puis il me dit « on n'a pas le temps, dans 5 minutes on passe devant le juge d'instruction ». Et donc il a 5 minutes pour me salver la tête en mode « t'es là, t'es dans cette merde-là ». Et en fait, d'un coup, moi, j'ai pris conscience dans quoi j'étais à ce moment-là quand cet avocat il me parle.
5 minutes.
Ouais, vraiment, ça a été hyper rapide. Enfin, là aussi, J'ai un peu paniqué et du coup, il était là en mode « Je suis vraiment désolé, mais t'as pas le temps de paniquer là, en fait. Il faut qu'on se concentre maintenant et qu'on y aille. » Donc c'était assez, assez brutal, quoi.
T'as répondu aux questions devant le juge d'instruction ?
Non, j'ai fait une déclaration spontanée.
Le juge d'instruction, ça se passe comment ? C'est ton interrogatoire de première comparution, comme on dit. Il te dit qu'il envisage de te mettre en examen. Mais là, toi, t'as compris que, parce que t'as vu ton avocat ou quoi, que bon, là c'est parti pour un moment, l'histoire.
Ouais, là, je comprends où je suis, je comprends les risques. Pour moi, dans ma tête, je dors en prison le soir. Et quand je suis devant le juge d'instruction, on se retrouve devant un gars méprisant, enfin vraiment, vraiment quelqu'un d'une autre classe, et qui, on sent dans ses propos, dans sa manière de nous parler, qu'il ne nous aime pas. Et du coup, je fais ma déclaration spontanée, et puis il me dit qu'il est emmerdé avec moi parce que il veut me foutre en prison, mais que il sait pas trop, vu que j'ai parlé, etc. Il est emmerdé, et puis au final, il déclare qu'il me met en contrôle judiciaire. Ouais. Et je sors donc. Moi, les enquêteurs qui m'ont arrêté, ils ont oublié. Là où j'étais arrêté, ils ont oublié mes affaires personnelles. Donc j'ai passé 5 jours sans mes médicaments, sans ma brosse à dents. Ils n'ont pas emmené avec eux mon portefeuille. Du coup, je dis au juge d'instruction c'est super, je dois pointer dans le sud de la France dès demain. Mais comment je fais ? J'ai pas mon portefeuille, j'ai pas mes papiers, j'ai pas de carte bleue, j'ai rien du tout, quoi. En fait, c'est.
Donc, grosso modo, il y a 4 jours, on est venu te chercher à 6h du mat dans le Périgord, là, ouais. Si j'ai bien compris.
Ouais.
Et tu te retrouves 5 jours plus tard.
En plein milieu de Paris.
En plein milieu de Paris, avec que dalle.
Sans rien.
Sans tête lavée. Ouais.
Et on me lâche comme ça dans la rue en mode allez, salut, quoi.
À demain matin dans le Périgord.
C'est ça. Du coup, non, moi, je suis pas allé dans le Périgord. Parce que du coup, la personne avec qui on a été arrêté, lui, il était sous contrôle judiciaire dans le Périgord. Et vu qu'on avait des interdictions de rentrer en contact, je pouvais pas, moi, retourner dans le Périgord à ce moment-là, quoi. Du coup, je suis allé sous contrôle judiciaire chez mes parents.
Ouais,
ok. Voilà. Et du coup, heureusement, là, il y a une super solidarité qui s'était mise en place. Et du coup, quand je suis sorti du tribunal, il y avait mon avocat qui m'attendait dehors avec une solution de logement qu'avait trouvé ma famille. Moi, je me suis fait trimballer de partout dans Paname. Et le lendemain, on m'a jeté dans un train pour rentrer chez moi, quoi.
Bon, j'imagine que tu mets pas mal de temps à atterrir en fait, de tout ce merdier.
Plusieurs mois, voire années. C'est littéralement très très long, ouais. Très très long de ressortir de ça.
Et c'est petit à petit, du coup, par la préparation avec ton avocat qui a accès au dossier. Parce que, ouais, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, l'avocat, là, à partir du moment où la personne elle est mise en examen, il a accès au dossier. Donc là, tu découvres un peu. Ce qu'on t'a fait dire, ce qu'on dit les autres.
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nos avocates ont eu accès au dossier après les journalistes. Ouais. Donc il y a eu forcément des journalistes d'extrême droite qui ont eu accès à ce dossier avant nous et qui ont sorti des dingueries dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il y a eu nos photos qui ont été publiées. Alors sur les médias officiels, nos photos étaient juste avec un petit bandeau noir sur les yeux. Histoire de nous anonymiser. Et sur Twitter, par exemple, il y avait toutes nos photos, nos noms qui étaient lâchés sans aucune anonymisation. Et du coup, ils ont eu le dossier avant nous. Moi, vu que j'étais... J'ai mis très très longtemps à atterrir. Mon avocat m'a pas mal harcelé pour que j'accepte d'avoir le dossier et que je le lise, que je m'y penche dessus et que je l'étudie. Et donc, j'ai mis quelque chose comme 8 mois avant de prendre en main le dossier pour l'appréhender, quoi.
J'ai quand même une question sur le contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, c'est certainement plus cool que la détention provisoire. Mais enfin, malgré tout, il y a des contraintes qui sont très importantes. Bon, il y a le pointage, mais dans votre cas en particulier, il y a aussi l'interdiction de contact. En fait, on parle quand même de ne plus pouvoir avoir de contact avec des très proches pour...
Oui. J'ai pas du tout vécu la liberté sous contrôle judiciaire comme une liberté à aucun moment. Enfin, ça a été très très compliqué. L'ami avec qui je vivais depuis 7 ans était en prison à ce moment-là. Donc, moi, j'avais du mal à vivre dans ces conditions-là. Le pointage toutes les semaines, les rendez-vous avec le SPIP. Enfin, vraiment, c'était Enfin, à aucun moment j'ai vécu ça comme une liberté.
Le SPIP, ça se passe comment ? Service pénitentiaire d'insertion et de probation. C'est le service qui est chargé en général d'accompagner les détenus après leur condamnation, mais il peut être aussi chargé de vérifier plutôt le respect des obligations et des interdictions du contrôle judiciaire. Et en général, il adresse un rapport après à l'audience. Et il n'est pas rare, c'est pour ça que je te pose la question, que... il se fasse un peu criminologue, quoi.
Oui.
Totalement. C'est assez aléatoire, ceux du SPIP qui nous suivent, c'est vraiment très aléatoire. Enfin, moi, je suis tombé sur deux qui, au début, voulaient me faire parler, me poser des questions sur l'affaire. Et j'ai dû, pendant un rendez-vous SPIP, appeler mon avocat pour que mon avocat lui dise, en fait, si vous posez encore des questions comme ça, on va appeler le juge d'instruction, on va vous faire changer de poste. Et après, j'ai eu d'autres suivis SPIP beaucoup plus cool, des gens humains. Et donc, c'est beaucoup plus facile de pouvoir discuter avec eux, surtout qu'ils font pas juste un suivi du respect des condamnations, etc. Ils font aussi un suivi de notre vie. Ils nous demandent, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on est en couple, où est-ce qu'on vit, comment on vit, où est-ce qu'on travaille. Enfin, il y a tout un suivi pour voir comment on vit, en fait.
On en revient au dossier. Donc tu dis que des mois après, tu te plonges dans le dossier.
Ouais.
Concrètement, il y a quoi dans ce dossier ? Qu'est-ce que... voilà.
Si je dis pas de bêtises, c'est un gros bordel de 8000 pages.
8000 pages.
C'est énorme. Quand on commence à le lire à partir de la page 1, c'est... et du coup, c'est hyper compliqué à lire. Il y a énormément de documents qui sont pas du tout utiles à la compréhension, enfin, c'est toute leur interaction entre services, entre juges d'instruction, DGSI, etc.
Du coup, tu découvres ce dossier de 8000 pages,
ouais,
dans lequel tu découvres ce que tu as dit toi-même pendant la garde à vue, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu découvres que tu as dit ?
Alors déjà, on découvre aussi toute l'instruction qui s'est passée en amont, les filatures,
ah ouais,
les micros, les écoutes,
ouais,
les surveillances. On vraiment découvre tout ça.
Ça veut dire qu'avant, tu n'as aucune conscience que depuis X temps,
ouais,
on scrute toute ta vie.
Ouais. Puis vraiment, on n'avait aucune conscience que des gens tournaient autour de notre maison pour nous surveiller, etc. Et vraiment, on se sent violé littéralement.
Et alors, ça doit être quand même étonnant parce que quand la police, que ce soit la SDAT ou n'importe quel policier, fait des surveillances ou des écoutes, il en livre une interprétation à chaque fois personnelle dans le PV. Et du coup, j'imagine que des fois, tu t'es dit « Ah, mais ils étaient là et ils tirent comme conséquence un truc complètement farfelu. » Il y a un décalage, quoi.
Alors, par rapport à moi, il n'y en a pas eu trop de ce genre de choses. Mais oui, littéralement, dans le dossier, enfin... il y a un moment où ils font un film, ils font une vidéo, ils filment une scène où il n'y a personne parce que les gens sont dans un camion et ils entendent des bruits et ils disent c'est les bruits d'un semi-automatique alors qu'ils étaient en train de faire de la cuisine dans le camion, quoi. Et donc vraiment il y a des conclusions comme ça tout le temps, quoi. C'est assez fou, quoi. Et donc oui, là je découvre à ce moment là tout ce que j'ai dit en garde à vue. Là ça a été très très compliqué pour moi à ce moment là parce que je ne me reconnais pas du tout dans mes propos rapportés. Et vraiment, je ne comprends pas comment j'ai pu dire des choses comme ça, parce que vraiment, il y a des choses qui sont complètement fausses. Je dis des choses dont je ne suis pas du tout au courant. Enfin, vraiment, en fait, je lis les propos de la DGSI, ce n'est pas mes propos que je lis, quoi. Donc, c'était très, très compliqué. Et puis derrière, on est confronté aux interrogatoires du juge d'instruction et on est confronté à ces réponses-là. Et donc là, répondre...
Elle te colle à la peau jusqu'à l'audience.
Complètement.
Complètement.
Et là, c'est très, très compliqué de faire face à ces réponses.
Tu vois le juge d'instruction à plusieurs reprises ?
À trois reprises.
Et à chaque fois, quel type de questions est-ce qu'il te pose ? Est-ce que ça ressemble aux questions qui t'ont été posées en garde à vue ? Est-ce que c'est d'autres questions ?
Sur la forme, ça ressemble... Alors, sur le fond, c'est les mêmes questions qu'en garde à vue, mais sur la forme, pas du tout, parce que c'est des questions qui sont... très très longue. C'est vraiment des questions, enfin, c'est des pavés monstrueux qui noient d'informations et et dans lequel, donc c'est les mêmes questions qu'à la DGSI, sauf qu'ils rajoutent dans ces questions tous les dires des uns et des autres en interrogatoire DGSI et en interrogatoire devant le juge d'instruction. Donc on est confronté à nos propres réponses, aux réponses des autres, et on est, enfin, à ce moment-là, même si je ne suis pas dans le même état qu'à la DGSI, je suis quand même dans un état pas terrible. C'est très très compliqué de répondre à ces questions à ce moment-là.
Et j'imagine que tu commences à revenir sur certaines des déclarations que tu aurais fait en garde à vue. Et comment c'est accueilli ça par le juge d'instruction?
Ah, c'est très mal accueilli. Il y a des moments où il m'a mis des gros coups de pression, où il me pose une question, il attend une certaine réponse, je ne lui donne pas, il me repose la même question, je lui redonne la même réponse. On fait ça 3 fois jusqu'au moment où il s'emporte, il s'énerve, il me met un gros coup de pression. Et ouais, non, vraiment, c'était...
Ça, c'est pas écrit non plus.
Bien sûr que non.
Le off, il est partout. Hein,
et du coup, là, donc, on est devant ce juge d'instruction qui fait des blagues méprisantes, par exemple, sur la couleur des cheveux d'un co-inculpé, et qui fait plein de blagues et qui refuse que ces blagues soient inscrites au procès-verbal de la greffe. Donc ouais, c'est vraiment une... Et puis vraiment, on sent à ce moment-là encore le mépris de classe assez violent, quoi.
Dure combien de temps, cette instruction?
L'instruction a duré 3 ans. Et les interrogatoires chez le juge d'instruction, c'est des très longs interrogatoires qui durent entre 3 et 5 heures. C'est très très long.
Donc ces 3 ans, on l'a dit, Marie le rappelait, 3 ans de contrôle judiciaire où tu peux pas voir des gens qui ont pris son proche pour toi, où tu peux pas retourner, où ça a été modifié, ça.
Alors c'est pas exactement ça, parce que l'instruction démarre même 6 mois avant que moi je rentre dans le dossier. J'ai pas pu parler aux gens pendant... Ben, en fait, techniquement j'ai jamais pu leur parler, même encore aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule personne, donc mon ami avec qui je vivais depuis des années, avec qui j'étais très proche. Juste avant la fin de l'instruction, on a eu autorisation de rentrer en contact et de se voir. Du coup, on a pu se voir pendant 1 an avant le procès. Et puis au procès, on a été condamné à plus pouvoir se parler, rentrer en contact.
Du coup, tu as dû demander une autorisation pour ça, j'imagine.
Oui, et du coup, on a redemandé. Et là, ça fait 6-8 mois qu'on peut à nouveau encore se reparler. Et on a fait des demandes pour les autres et tout nous a été refusé.
Alors l'audience arrive, elle est sur combien de temps?
Elle dure un mois. Que les après-midi. Mais alors du coup, c'est des après-midi qui... Ça commence à 1h30. Et puis ça peut s'étendre jusqu'à 21, 22h, 23h. C'est assez aléatoire en termes d'horaire, suivant les débats, comment ils se déroulent. Et donc c'est sur 3 semaines. Ouais, c'est ça, 3 semaines.
Ce qui est très marquant quand on lit les comptes rendus du procès, c'est que ça commence en fait par un interrogatoire sur votre personnalité, donc qui a l'air en partie de s'appuyer sur une enquête de personnalité, il me semble, que vous aviez passée auparavant, c'est ça?
Oui, on avait, y avait une personne, je ne sais pas quel est son rôle dans la vie, mais du coup il y a une personne qui était venue chez mes parents pour me poser des questions à mes proches, pour faire une enquête de personnalité, ouais.
Et ce qui est très frappant, c'est que les questions semblent un peu délirantes quand on les lit au début. Il me semble qu'on t'a interrogé sur le véganisme, sur ta sensibilité à la cause animale, sur ton régime, enfin, je ne sais plus si c'était à toi ou à d'autres, mais sur le régime alimentaire. Du coup, autant d'informations qui nous semblent plus ou moins intéressantes, parfois anecdotiques, parfois pas... mais qui ont l'air d'être pour eux révélatrices d'un profil un peu inquiétant.
Oui, et puis surtout, en fait, leur questionnement, c'est comment un ancien végétarien passe aujourd'hui son permis de chasse. Et c'est vraiment ça pour eux. Ils veulent prouver que si qu'on s'armait pour aller faire la révolution,
radicalisation, armé,
ils voulaient te mettre en face d'une soi-disant contradiction.
Ouais, alors que de la viande, j'en rebouffais depuis des années. Ouais. Enfin, et puis du coup, ça, ils l'acceptent pas. Enfin, pour eux... On est végétarien à vie, et ils n'acceptent pas le fait qu'on puisse changer, qu'on puisse évoluer, que ce qu'on a été il y a 10 ans, on ne l'est plus aujourd'hui.
Finalement, c'est ça, tu as été végétarien, maintenant tu ne l'es plus, même si tu as décidé de remanger de la viande, c'est quasiment parce que tu veux tuer du flic. Enfin, on a l'impression que chaque chose que tu vas faire peut être liée à cette ce qu'on te reproche, à ces intentions qu'on te reproche.
Oui, oui, et puis surtout, c'est comme tout ce qui se passe dans le dossier, je pense que 99% de cette enquête de personnalité, même jusqu'à la conclusion, on voit que je ne suis pas un dangereux extrémiste, dangereux pour la société. Par contre, eux, ils vont se raccrocher à deux mots qui ont été dits dans cette enquête. Ils vont se focus que là-dessus. Et tout le reste, ils vont complètement l'oublier. Enfin, on peut citer par exemple que pendant le procès, dans le dossier, ils ont inscrit dans le dossier, si je ne dis pas de bêtises, 0,1% de nos écoutes téléphone et micro. Et du coup, on est jugé sur 0,1% de notre vie, en fait. Et tout le reste, ils l'ont complètement oublié.
Il n'y a que des éléments à charge.
Que des éléments à charge.
Qui pourraient être à décharge, jamais mentionné.
Ouais.
Jamais pris en compte.
C'était un des points intéressants de la défense qui disait, mais en fait, il n'y a pas tout. Il y a très très peu des écoutes qui ont été retranscrites et qui sont présentées. En fait, il faudrait qu'on ait tout pour pouvoir aussi montrer qu'il y a plein d'autres choses dans la vie de ces gens que les rares éléments tirés à des montres spécifiques. Et il faudrait aussi que les enquêteurs se présentent à la barre pour qu'on puisse les interroger, qu'on puisse les confronter, qu'on puisse leur poser des questions. Ils ont fait, il me semble, cette demande-là qui n'a jamais été acceptée.
Oui. Cette demande a déjà été empêchée dans les locaux de la DGSI, où lorsque les avocates se sont présentées avec les papiers officiels de demande de témoignage des enquêteurs, à la DGSI, on leur a dit on ne sait pas qui c'est. C'est des numéros de matricule. Donc,
26, 27.
Exactement, ouais. Et du coup, on ne sait pas qui c'est. Et donc vraiment, c'est déjà la DGSI qui a obstrué cette démarche. Et ensuite, le tribunal en lui-même, quand on a fait des demandes officielles au tout début du procès, ils ont fait ce qu'on appelle une mise au fond. On met cette demande au fond et puis on verra plus tard si jamais on la traite. Et puis, dans les conclusions, il y a marqué... Ben non, dans les débats, il n'y a jamais eu besoin de revenir à tout ça. Alors que quand on lit les conclusions elles-mêmes, dans les 10 premières pages, les enquêteurs sont cités 15, 20, 30 fois. Et donc, mais ils ont décrété que non. Pour les débats, il n'y avait pas besoin qu'on ait leur témoignage.
Et on rappelait en tout début d'émission ce pourquoi tu as été jugé. Association de malfaiteurs... terroriste et le caractère méga flou de ce truc-là où on va essayer de juger une intention et du coup la seule manière de faire pour eux c'est la technique comme ils disent du faisceau d'indices, donc on va prendre des bribes de trucs-là, il y a 70 000 communications, il y en a 4 qui nous intéressent, on va les prendre et puis on va la faire résonner avec autre chose, etc. Et comme ça on crée un récit finalement complètement artificiel. Ça doit être étonnant de voir face à soi ce récit en train de se construire de quelqu'un qui n'est juste pas toi. Qu'est-ce qu'on fait face à ça en audience?
On subit la frustration parce que vraiment on entend des choses qui sont aberrantes, on entend les réponses des uns des autres, des témoins, etc. Et on sent, ça a été une audience qui était publique. Et vraiment, il y avait du public, donc il y avait du public soutien, il y avait du public lambda qui était juste curieux de voir ce qui se passait. Et on sentait très bien que dans le public, tout le monde entendait nos positions, entendait ce qu'on disait. Et les seuls qui n'entendaient pas ce qu'on disait, c'était le tribunal. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils écoutaient leurs questions, mais ils n'écoutaient même pas la réponse, quoi. C'était très frustrant. Un moment assez énervant de ne pas pouvoir se sentir écouté, entendu. Et puis pendant ce procès, on découvre plein de choses aussi. Par exemple, les interrogatoires qui s'étaient passés à la DGSI, à plein de moments, nos avocates nous demandaient, les avocates ou même les juges nous demandaient, vous avez donné telle réponse à telle question. Et là, on se sent un peu bloqué, on va dire, à quel moment j'ai pu répondre ça à telle question? Et à un moment donné, on parle d'une copine qui s'est fait arrêter, qui s'est fait interroger, mais qui n'a pas été poursuivie derrière. Et on dit, elle a donné cette réponse. Et quand on demande, est-ce que tu pourrais me dire quelle question a été posée? On est là, on ne sait pas quelle question. En fait, l'avocat nous dit, moi non plus, parce qu'il n'y a pas de retranscription de cette question. Et donc là, on se rend compte qu'en fait... ils ont obligation de retranscrire nos réponses, par contre ils n'ont aucune obligation de retranscrire leurs questions telles qu'elles ont été posées. Et c'est là où on comprend toute la manipulation qu'il y a eu à la DGSI.
Et sur le fait que vous soyez jamais cru, c'est quelque chose qui n'est pas propre par ailleurs au procès pour antiterro. C'est la justice ordinaire, la justice pénale ordinaire ne croit jamais les prévenus. Donc.
Et là, en plus de pas nous croire, toutes les demandes de la défense ont été refusées. Ils n'ont accédé à aucune de nos demandes, que ce soit des bris de scellés, que ce soit des demandes de témoignages, que ce soit des questions de constitutionnalité.
Est-ce que tu peux détailler ces choses, les bris de scellés par exemple?
Je peux parler, pour moi personnellement, j'ai demandé à ce qu'on sorte mon téléphone, qui est donc un des scellés de la DGSI. Et dans mon téléphone, il y a un MMS que j'ai reçu d'un ami quelques mois avant les arrestations. Et c'était un détournement d'une image du système de sécurité de Paris pour le 14 juillet. En fait, c'est un détournement avec un pénis dessiné sur la carte de Paris à la place du vrai système de sécurité. Et lorsque je me suis retrouvé confronté aux questions des juges, ils ont affiché sur le vidéo proche, en gros devant tout le monde, des images du réel système de sécurité de Paris à ce moment-là, avec le plan des vols, le plan du défilé, etc.
Sans le phallus, quoi.
Sans le phallus. Et là, du coup, je me suis un peu senti bloqué parce que je suis là, mais j'ai jamais eu ça dans mon téléphone. Et du coup, il y a une question qui m'a été posée et j'ai pas su quoi répondre. C'était: est-ce que vous dites que la police ment?
Alors, est-ce que la police ment?
Ah ben totalement. Là, pour le coup, je peux l'affirmer et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je demande ce bris de scellé. Pour pouvoir prouver,
montrer.
Et ça n'a toujours pas été autorisé aujourd'hui encore.
Et les magistrats se justifient du fait de refuser? Ça semble fou de refuser une chose pareille. Qu'est-ce que ça pourrait leur coûter par ailleurs?
Ils ont plein de raisons différentes. Ça ne concerne pas les débats, cette demande a été faite trop tard. Enfin, il y a plein de raisons alambiquées pour pouvoir refuser d'accéder à nos demandes.
Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
J'imagine que, comme devant le juge d'instruction, à l'audience, tu vas décrire les conditions dans lesquelles tu as déclaré ce que tu as déclaré en garde à vue. Pareil, même question que tout à l'heure, comment c'est accueilli par les juges?
On a vraiment l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Vraiment, on déclare toutes les conditions dans lesquelles on a été interrogé, détenu, etc. Et vraiment, enfin, aucune réaction de leur part, aucune compréhension, enfin... C'est moi-même, j'ai déclaré à la barre et je le soutiens encore aujourd'hui. Je réfute absolument tout ce que j'ai dit en garde à vue et devant le juge d'instruction. C'est vraiment quelque chose que j'ai déclaré à la barre et je le tiendrai encore jusqu'au bout parce que j'ai été manipulé par la DGSI pour pouvoir dire tout ça. Mais c'est pas du tout pris en compte. À aucun moment, ce genre de déclarations sont prises en compte.
Ce qui est assez frappant dans la fabrication du récit par l'accusation et dans ce faisceau d'indices, comme disait Jonathan, c'est qu'en fait, ça va piocher un peu dans plein de choses très différentes et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Dans certains cas, des petites infractions, alors ça te concerne, tout ne te concerne pas forcément, mais alors du vol de fumier, la fabrication de pétards, quelques armes non déclarées, mais aussi dans des choses qui sont parfaitement légales, la possession, la détention de brochures, avoir le permis d'armes, la possession d'armes déclarées, et ça mélange toutes ces choses. Ça doit être aussi étrange de se voir reprocher quelque chose que tu as le droit de faire, que tu as fait, que tu as le droit de faire. Tu as le droit d'avoir ce permis de chasse. Tu as le droit de détenir une arme déclarée. Comment, du coup, quoi dire pour sa défense dans ces moments-là?
Juste dire la vérité. On déclare que tout était en toute légalité. Ce qu'on a fait d'illégal, on explique pourquoi, on emmène des preuves de pourquoi on a fait ces choses-là, et que à aucun moment c'était dans le but de s'en prendre à des biens ou des personnes. Mais on peut s'égosiller dans tous les sens, on peut sortir toutes les preuves qu'on veut, on n'est pas du tout entendu. Pendant le rendu du procès, la présidente a déclaré officiellement qu'il n'y avait ni groupe ni projet, mais qu'on était condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Ouais. Et là, on est là, bon, ben, en fait, on peut être condamné pour avoir fait n'importe quoi. Enfin, je traverse pas sur le passage piéton, AMT, quoi. Enfin, vraiment, on est démunis, complètement démunis.
Pour qu'on mesure bien, parce qu'effectivement, Marie, tu parlais de choses légales, de choses pas légales. Donc, on a parlé de permis de chasse, du fait d'avoir une arme. On vous reproche d'utiliser des messageries que tout le monde utilise au quotidien comme signal, etc.
Les magistrats en premier, hein, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Les députés.
Que certains sont même à peu près obligés d'utiliser pour garantir une certaine confidentialité logique. Et donc, effectivement, on se retrouve face à des... Enfin, vous vous êtes retrouvés face à des... comment dire, des choses légales. On vous demande de vous justifier de choses dont on n'a pas justifié parce qu'elles sont légales, et les justifications que vous apportez ne sont pas convaincantes, alors même que, et du coup, effectivement, c'est le truc de pédaler dans la semoule sans rien. Voilà, rien de ce que tu peux dire, même sur le légal, ne va pouvoir convaincre.
Oui, et puis même au-delà de ça, cette justice classiste va... On a passé énormément de temps à parler de vie en camion, de squat, oui, de ZAD, etc. Et vraiment, il y a une... pour eux, il y a limite une criminalisation de ces modes de vie alternatifs. Mmh. Et donc, ils ne comprennent pas comment on peut vivre comme ça. Et vraiment, il y a eu tout un pan où, où ils demandaient comment ça se passait dans les squats, dans les militants, la vie en camion. Enfin, vous avez un diplôme, pourquoi vous n'allez pas travailler? Pourquoi vous vivez en camion plutôt que d'aller bosser, quoi?
Et vous justifiez en permanence.
Tout le temps, pour tout. Ouais, ouais.
Je me souviens, dans les comptes rendus du procès, effectivement, sur ça, ça prouvait vos mauvaises intentions parce que vous utilisez Signal et que vous êtes nomade parce que vous vivez en camion. Ouais. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on reproche, effectivement.
Complètement.
Ils ont notamment pas mal de questions sur les brochures que vous avez, hein. Puisque brochures que tout un chacun a eu chez soi, des manuels de sabotage en tout genre. Et c'est vrai que là, c'est aussi des conversations un peu qui sont folles, parce que ça veut dire on peut avoir une brochure, ne pas être d'accord avec tout, on peut avoir une brochure, ne jamais l'avoir lue. Mais tout ça, c'est pareil, a l'air d'être peu entendu par les magistrats en face de vous, quoi.
Oui, puis on a aussi fait des demandes de briseler de nos ordinateurs et disques durs, parce qu'on voulait montrer que, oui, j'avais 4 brochures qui étaient, à leurs yeux, tendancieuses. Pour moi, c'est juste de l'information. Et si jamais on pouvait montrer au tribunal que dans mon ordinateur, j'avais 1 téra de données qui parlaient d'absolument tout, ça montrerait bien mes réels centres d'intérêt. Quand ils ont fait l'étude de mon téléphone, ils ont sorti 3 musiques anarchistes du 19e siècle, et une liste de mails de vieux zadistes 68ards. Et du coup, la conclusion du fin limier de la DGSI, c'est que je fais partie de la mouvance anarcho-autonome du sud-ouest de la France. Et il n'a pas du tout marqué que j'avais aussi du Maître Gims, etc. Dans mon téléphone, et toute autre musique, photo, vidéo. Vraiment, on s'est penché sur 3 musiques et une liste mail, quoi.
Le passage du procès qui est dédié aux différentes messageries du type Signal, et puis au matériel informatique et aux méthodes de cryptage, est un peu incroyable. Donc il y a un mélange de mauvaise foi extrême sur l'utilisation des messageries comme Signal, que tout le monde utilise, et qu'ils font semblant que ce soit quelque chose d'extraordinaire, qui montre vraiment que ces gens ont quelque chose à cacher, et aussi avec un mélange aussi quand même de peut-être plus réel, grande inculture, parce qu'à les entendre, Linux, c'est quand même un truc de dangereux hacker, quoi. Donc c'est un bizarre mélange des deux.
Avec une présentation très cryptée, il y a plein de mots comme ça qui font hyper peur, mais bon.
La vie clandestine, c'est vraiment ça qui leur fait peur, c'est de vivre de manière clandestine, alors que pas du tout, quoi, c'est juste protéger sa vie privée et pouvoir discuter librement sans être écouté.
Ça, c'est d'ailleurs un des témoins que vous aviez fait comparaître à l'audience, c'était... alors qui c'était? C'était un spécial, je ne sais plus qui c'était.
Un type de la quadrature du
la mal. La quadrature, merci, ouais. Oui, et puis lui, d'ailleurs, il a remis les choses dans l'ordre. Quand il disait c'est des messageries cryptées, machin, enfin, lui, il disait non, c'est pas ça. Et puis il expliquait quel était le fonctionnement de ces applications. Il racontait que tout le monde utilisait, des gouvernements jusqu'au simple citoyen lambda. Et c'était quelque chose de très intéressant. Et pareil, à ce moment-là, ils écoutaient pas, quoi. On s'en foutait de ce qu'ils pouvaient raconter.
Du coup, après un mois d'audience, vous êtes condamné.
Oui.
On reviendra sur les peines, c'est une condamnation dont vous avez fait appel. Est-ce que vous avez, j'imagine que tu as lu le jugement.
Oui.
Dans ce jugement, le tribunal est censé donner les raisons, la motivation en fait, pour lesquelles ils ont estimé que vous étiez et que tu étais coupable. Est-ce que du coup, tu as l'impression que cette audience a servi à quelque chose, ou est-ce qu'elle aurait pu écrire la même chose avant cette audience
Ah ouais, non, en sortant du délibéré, c'était vraiment... J'ai eu l'impression d'avoir perdu un mois de ma vie, enfin, j'aurais pu rester chez moi et dire à mon avocat, tu me représentes, et ça aurait été exactement le même résultat à la fin, quoi. Vraiment, J'ai même eu l'impression que la condamnation était écrite avant même le procès. Alors, j'espère que non, mais vraiment, c'est le genre de sentiment qu'on peut avoir à ce moment-là, quoi.
C'est vrai que des fois, il n'existe pas vraiment beaucoup d'écart entre l'ordonnance de renvoi qui est écrite par le juge d'instruction en disant « il faut juger bidule pour telle chose » et le jugement de condamnation. Du coup, ça laisse penser que cet espace de l'audience, où vous pouvez faire des demandes, citer des témoins, vous exprimer, tout ça est quand même très artificiel.
Ouais, c'est vraiment le sentiment qu'on a à ce moment-là, ouais.
Est-ce que cette audience n'a pas servi quand même sur d'autres pans, par exemple médiatiques ? Il y a eu des articles qui ont justement mis en avant les fragilités de l'enquête. Enfin, on a pu voir un peu les absurdités qui vous ont été présentées au sein de l'audience. Est-ce que ça n'a pas eu au moins cet effet-là ?
Si, bah, du coup, il y a eu des effets positifs. Alors, sur le médiatique, pendant le procès, oui, il y a eu des articles qui sont sortis, même dans des médias qui sont pas du tout des médias copains à la base. Ils étaient plutôt de notre côté, au vu de ce qui se passait pendant les audiences. Et puis après, je dirais aussi qu'il y a eu d'autres effets positifs, par exemple sur ma famille, qui a assisté à absolument toutes les audiences. Même si avant le procès, il me faisait totalement confiance, d'avoir vu toutes ces audiences, vraiment ça a ancré une confiance en eux par rapport à moi. Ils étaient persuadés que j'étais pas quelqu'un de mauvais.
Alors, t'as été condamné à quelle peine ?
3 ans de sursis probatoire.
Avec du coup un tas d'obligations et d'interdictions ?
Du coup, j'ai interdiction de parler, rencontrer... les autres, mes co-inculpés, mes co-condamnés du coup maintenant. Interdiction de port d'armes, de détention d'armes, interdiction de... je crois que j'ai plus d'interdiction. Après, c'est obligation de soins psychologiques, obligation de soins...
De travail peut-être.
Obligation de travail et puis obligation de soins addictologiques.
Alors,
obligation de soins psychologiques.
Ouais. Je suis obligé d'avoir un suivi psychologique aujourd'hui.
D'accord, donc tu dois justement justifier devant les SPIP, c'est ça ?
Je dois justifier devant le SPIP que je dois ramener à chaque fois mes justificatifs d'addictologue et de psychologue. Donc je suis considéré comme malade, j'imagine.
Mais justement, ça repose sur quoi, une obligation de soins pour...
Sur rien. Alors, le psychologique, je ne comprends pas sur quoi ça repose.
C'est le gauchisme, c'est une maladie.
Mais
mentale.
En fait, c'est ça l'impression, c'est qu'effectivement, tu n'as jamais pu te défendre et puis que finalement, tout toi est malade.
Je suis malade.
Voilà.
Ouais. Et puis même la dictologie, oui, j'ai dit qu'à une certaine époque, j'avais eu des problèmes avec l'alcool, mais que même avant l'arrestation, j'avais plus de problèmes d'alcool. Pour eux, je suis toujours malade de l'alcool et je suis toujours alcoolique, donc obligation de soins addictologiques.
Ce
qui n'est pas illégal, complètement.
Alors c'est intéressant ces obligations parce que travail, addiction, suivi psy, c'est vraiment, on t'estime coupable et gauchistement malade du coup, alcoolique et puis tu travailles pas en fait, c'est un mode de vie. S'ils avaient pu t'obliger à ne pas vivre en camion et à vivre dans une maison, ils l'auraient fait, je pense.
Avoir une Golf et un Labrador.
Ouais. Et peut-être être marié aussi.
Ouais. Et à me marier.
On revient complètement sur cette histoire de justice de classe. On a appris aussi, grâce à l'audience, que votre dossier s'appelait Punk à chien.
L'affaire des Punk à chien,
ça commençait déjà assez bien.
C'est le nom qu'a donné la DGSI à notre affaire, ouais.
Et effectivement, on est dans une espèce de justice de classe, psychiatrisation d'idées politiques qui sont revendiquées comme...
Notre maladie, c'est la marginalité, d'après eux.
Voilà,
c'est le nom de cette maladie.
Et au-delà de cette condamnation, j'imagine qu'il y a une inscription au FIJET aussi.
Du coup, oui, je suis inscrit au FIJET. Donc, c'est une inscription qui est pour 10 ans, renouvelable une fois 10 ans.
Préciser ce que c'est que
le fichier des infractions terroristes.
Des auteurs d'infractions terroristes.
Ouais, du coup, c'est un fichier qui nous oblige à pointer tous les 3 mois. Donc, on doit transmettre un justificatif de domicile tous les 3 mois. On doit prévenir à l'avance tout déménagement. On doit prévenir à l'avance si on va à l'étranger. On est obligé de donner une adresse. Si on va à l'étranger, on peut pas partir en sac à dos en Scandinavie. Il faut absolument donner une adresse de là où on va à l'étranger. Et forcément, après, c'est un fichage international qui est transmis avec les polices alliées du monde entier.
Et par ailleurs, c'est la peine après la peine. Parce que si on t'entend bien, une inscription de 10 ans, ben, ça va être, ça dépasse de beaucoup, 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 beaucoup tes 3 ans de sursis probatoire.
Complètement, et vu que c'est renouvelable, c'est même 20 ans.
D'accord,
c'est même 20 ans de fichage.
Et justement, pour toi, c'est quoi l'enjeu de l'appel là, maintenant, dans ces conditions, dans ce contexte ?
J'aimerais retirer mon inscription au FIJET et le terme de terroriste dans mon dossier. Et surtout, le principal but à continuer en faisant appel, et puis suivant ce qui se dit à l'appel de continuer plus loin, c'est de retirer cette jurisprudence que ce procès a créée. Parce que aujourd'hui, la jurisprudence de ce procès, c'est qu'on peut être jugé terroriste pour juste une partie d'Airsoft. C'est à peu près ce que dit ce dossier, quoi. Donc faut vraiment arriver à faire retirer cette jurisprudence.
Oui, cette partie d'Airsoft, c'est une très bonne illustration de ce qu'on disait sur l'association de malfaiteurs terroristes, c'est-à-dire ce qui est un jeu ludique et sportif pour certains est une préparation paramilitaire pour d'autres. Est-ce que ça vous va si on conclut cette émission ? Est-ce que tu as d'autres choses à dire ?
Moi, juste si je pouvais faire passer un message, c'est si jamais vous retrouvez arrêté, surtout prenez un avocat. C'est vraiment la chose la plus importante. On voit très bien avec mon expérience que c'est la pire erreur, c'est de ne pas prendre d'avocat et de répondre à leurs questions, quoi. Donc prenez des avocates, c'est à ça que ça sert. Il faut se protéger les uns et les autres.
Ben merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Et on suivra bien sûr
ça, évidemment, l'appel. On raconte et tout notre soutien, évidemment.
Bien sûr.
Merci.
Pour la suite.
Ben merci beaucoup et au mois prochain.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat, monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-do-da.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'Envolée sur Fréquence Paris Pluriel en région parisienne. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé en début d'émission, on vous a simplement rediffusé une émission tapage de la Sellette au sujet de l'affaire dite du 8-12 ou 8 décembre. Donc comme je vous le disais en introduction d'émission, ce récit est très riche en mise en lumière de comment fonctionne la justice antiterroriste et la garde à vue, mais aussi comment fonctionne la justice et la garde à vue en général, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions, à aussi nous raconter votre vécu de la justice. Vous pouvez retrouver beaucoup de chroniques de la violence judiciaire et d'autres choses très intéressantes sur le blog de la Sellette, lasellette.org. Vous pouvez trouver plus de choses au sujet de l'affaire dite du 8 décembre sur un blog qui s'appelle « Soutien aux inculpés du 8 décembre » sur noblogs.org. Sachez que la Sellette a aussi réalisé une autre émission sur la justice antiterroriste avec une invitée qui s'appelle Vanessa Codaccioni et en réalisera une prochaine avec un invité qui s'appelle Kamel Daoudi qui a signé à résidence renouvelée perpétuellement depuis 2008. On en a déjà parlé aussi à cette antenne. Vous trouverez toutes ces infos et d'autres sur le site internet de l'Envolée. Avec le fil de cette émission et vous pourrez réécouter cette émission. Je vous rappelle les contacts de l'Envolée, écrivez-nous. Par la poste, c'est à l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75019 Paris. Vous pouvez nous contacter sur un téléphone portable 07 53 10 31 95. Laissez un message sur le répondeur ou des textos. Essayez aussi par signal si vous pouvez. Par email contact@l'envolée.net et nous suivre sur le site internet l'envolée.net, la page Instagram l'envolée journal. Et pour l'heure, je vous laisse avec un grand salut de grande pensée à tous les prisonniers et prisonnières, à leurs proches, pensée particulière aux isolés et à ceux et celles qui subissent les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Voilà, mais aussi à tous les autres, à toutes les autres. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 19h, et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement.
Puisqu'on submerge de sons et d'images, qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escaliers que gentiment on nous héberge, mais qu'on a fait de nos paliers de vrais coups de gorge. Tu mets sur tes gardes chaque fois que t'abordes ce que l'on désigne quand le débat déborde, comme des hordes barbares en afro ou à barbe, que tu flippes de croiser le soir quand tu t'attardes. Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burnes chez les uniformes, et que les vies germent dans nos épidermes, et que c'est le tapage nocturne quand les gens dorment. Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme, tu réclames que ceux qui te gouvernent deviennent plus fermes, que si tous boxons sous ton balcon s'acharne, c'est sûr tu feras un carton avec ton arme.
Qui sont-ils?
Tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux, tu utilises la force, brassard de police et drapeau sur le torse. Tu fracasses tes faces en légitime défense et rappelle qu'ici quand même on est en France, et que toi tu penses et fais des sacrifices, c'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs, ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux, et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux. C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès, des sales manouches, des sales bicots et négresses, les collègues t'applaudissent et une juge te caresse, et pour fêter ça tu tires en état d'ivresse.
Qui sont-ils?
Le trafic et la contrebande, beaucoup plus de flics, de prison et d'amende. Selon le dernier sondage de ta commande, tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades sur la menace de ces gangs et puis du djihad. Parle d'escalade, de violence et de balade, avec brigade et télé sur nos esplanades. Promets aux Français malades ton aide, leur dis que la meilleure méthode c'est la plus raide, afin de terminer pour une fois dans des poudres avec ces voyous qui te vendent flingue et poudre. Qu'ils viennent sur les listes électorales, et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose, voilà ce que ton programme présidentiel propose.